d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 de la bande FM, et c'est maintenant l'émission Mode d'emploi, l'émission d'Agir ensemble contre le chômage. Ce soir, c'est l'équipe historique d'AC qui mènera l'émission, avec moi-même Ludovic au micro pour vous servir. Le 2 mars prochain, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, réunira les syndicats pour rediscuter de l'indemnisation du chômage. Nous avons choisi de vous rediffuser les témoignages issus de la mobilisation des chômeurs de mars 2020 contre la précédente réforme, dont une partie des décrets ont été depuis annulés par le Conseil d'État. On écoute tout de suite Fabrice de la CGT Chômeurs nous parler de la réforme à l'époque et faire un bilan de la loi travail.
Alors moi je vais essayer de présenter un peu le contexte social dans le, économique hein, dans lequel le décret du 26 juillet il va s'implanter et être mis en œuvre. Et déjà d'entrée de jeu, pour dire que là on est bien d'accord, on n'est pas face à une réforme de l'assurance chômage. Hein, les mots, ils ont leur importance. Une réforme, c'est sur une convention, c'est négocié paritairement entre les organisations syndicales et les organisations patronales. Là, on est face à un décret. Donc c'est pas une réforme, c'est pas une convention, c'est quelque chose qui a été imposé par le gouvernement pour répondre aux intérêts du patronat et des capitalistes financiers. Alors, juste pour donner aussi ce contexte-là, pour donner de la chair un peu, dans lequel, pour dire à quel point, en fin de compte, ce décret-là, il va à contresens de la réalité sociale et de l'urgence sociale qu'on connaît dans ce pays. Le décret du 26 juillet, il vient 2-3 ans après la mise en place des lois travail et des ordonnances Macron, contre lesquels la CGT, les organisations syndicales, on a pu se mobiliser et se battre. Et il y a un lien quand même avec le décret du 26 juillet, et au moins sur deux aspects. Le premier aspect, c'est sur le... Vous savez, il y a un adage là, un peu patronal, libéral, qui nous dit qu'il faut faciliter les licenciements pour pouvoir embaucher. Bon, bah là, on peut faire le bilan quand même un peu, 3 ans après les ordonnances Macron. Pour prendre simplement deux instruments qui ont été mis en place par la loi travail et les ordonnances, c'est la mise en place de barèmes prud'homaux, donc qui fixe un plancher maximal aux indemnités que les salariés peuvent avoir lorsqu'ils sont licenciés sans cause réelle ni sérieuse. Hein, donc il y a eu un plancher maximum selon l'ancienneté des salariés. Aujourd'hui, en 2018, pardon, donc un an après seulement la mise en place de ces barèmes prud'homaux-là, il y a 25% des employés qui étaient en CDI, ils ont vu leur contrat être rompu. Hein, donc ça veut dire qu'il y a eu une augmentation des licenciements sur seulement une période d'un an. Et pour les ouvriers, c'est de l'ordre de 21,5% hein, de tous les contrats. On est bien d'accord. Hein, tous les contrats en CDI sur l'année 2018, il y a 25% des contrats qui ont été rompus par l'employeur en 2018. Bon, donc ça, c'est un premier élément, il n'est pas anodin, parce que ben, le chômage de masse, hein, c'est quelque chose qui construit, qui s'amplifie, et donc ça, c'est une vraie incidence. La deuxième grosse incidence, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes, pardon, et la mise en place de négociations de branches, donc dans les conventions collectives, et des négociations de branches, pardon, sur décider du recours aux contrats précaires, donc à la fois sur le nombre de CDD qu'on peut mettre les uns à la suite des autres, sur leur durée et sur le délai de carence. Alors, la précarité se développe dans le pays depuis déjà un certain nombre d'années, mais quand même, on a eu un peu une accélération. Par exemple, en 1993, 76% du taux d'entrée, donc c'est-à-dire des contrats qui étaient signés entre un patron et un salarié, 73% des contrats, c'était des CDD. On est monté jusqu'à 83% en 2009. Et là, en 2018, on est monté à 87%. Hein, donc il y a une précarité qui se développe, qui se généralise. Alors ça ne change pas forcément sur la photographie du salariat, puisqu'encore aujourd'hui, hein, il y a seulement 20%, enfin même un peu moins de 20% des contrats qui sont en CDD. Mais par contre, on a 11 millions de travailleurs privés d'emploi et précaires qui se partagent 20%, un peu moins, du marché de l'emploi. Et quand même, ce qui va de plus en plus, c'est la baisse des durées de contrat. Là, pareil, pour prendre juste des chiffres, en 2001, donc c'est pas il y a si longtemps que ça, 50% des CDD avaient une durée inférieure à 21 jours, ce qui est déjà quand même très peu. Aujourd'hui, en 2018, c'est 5 jours. La moitié des contrats en CDD qui sont émis ont une durée qui sont inférieures à 5 jours. Donc quand Johan il va vous expliquer les conditions pour pouvoir ouvrir des droits, gardez ça en tête, 50% des contrats ont une durée inférieure à 5 jours. Alors bien évidemment, ça se concentre sur certains secteurs économiques, majoritairement dans l'industrie, la construction, et un autre qui est le tertiaire. Pour prendre ce seul secteur-là, en gros, 46% des employés du tertiaire ont en moyenne 4 contrats par trimestre. Hein, donc ça illustre bien cette réalité-là, que les contrats sont de plus en plus courts. Et la précarité, elle est bien subie, puisque les employés continuent à signer leurs contrats précaires chez le même employeur. Hein, c'est pas le salarié. Là, je le dis, ça peut paraître une banalité, mais le gouvernement, lors des négociations, par exemple, sur l'UNEDIC, il nous dit la précarité, c'est l'optimisation fiscale. Parce que, vous savez, il y a la prime précarité. Donc voilà, donc c'est pas anodin quoi, de dire ça. Hein. La précarité, elle est subie. Donc une fois qu'on dit ça, on peut se poser la question qui organise le chômage et la précarité dans ce pays. On va prendre un seul exemple, c'est Ford. Ford à Blanquefort, il y a une usine où il y avait 1000 salariés, un tas d'emplois d'entreprises sous-traitantes qui dépendaient de cette activité-là en Gironde. Le patron a décidé de fermer l'entreprise. Il y avait un repreneur. L'État aurait pu imposer à Ford que l'usine soit reprise par un autre constructeur. L'État, qu'est-ce qu'il dit ? Il n'a rien fait. Voilà, il n'a rien fait. Donc c'est 1000 emplois qui ont été supprimés. Certainement des milliers d'autres emplois qui sont aujourd'hui dans le rouge et qui malheureusement vont être supprimés aussi. L'État, il récompense ces entreprises-là hein, avec le CICE. Il les gave de subventions publiques. Si on prend par exemple Carrefour, ils ont touché des centaines de millions d'euros de CICE. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent un instrument qui a été donné par les ordonnances Macron, ça s'appelle les ruptures conventionnelles collectives. Ruptures conventionnelles collectives, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça permet à un employeur de casser de l'emploi pour des raisons économiques sans passer devant un tribunal. Hein, normalement, quand un employeur il fait un plan de licenciement pour raisons économiques, plan de sauvegarde de l'emploi, comme ils les appellent, ils doivent passer devant un tribunal. Le tribunal doit valider le PSE. Rupture conventionnelle collective, ça permet d'éviter ce passage-là. Bon, et ben en 2018, c'est 3000 emplois qui ont été supprimés à Carrefour alors qu'ils ont touché des tonnes de CICE. À PSA, c'est 1300 emplois qui ont été supprimés rien qu'en 2018 alors qu'ils touchent des centaines de millions de CICE. Et on peut faire comme ça une liste longue. 700 à Sanofi et encore des milliers d'emplois à la Société Générale, 2100 emplois supprimés. Donc il y a une casse de l'emploi qui est générale, qui se concentre pas seulement sur un secteur économique mais sur l'ensemble de notre société. Et c'est bien le patronat qui organise le chômage et la précarité. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut placer l'UNEDIC. L'UNEDIC, c'est une protection sociale. C'est une protection sociale pour les travailleurs, parce que les travailleurs, ils sont privés d'emploi. C'est pas nous qui choisissons d'être licenciés, et c'est pas nous, malheureusement, dans cette société, qui avons le pouvoir d'embaucher. C'est bien le patronat. Donc, la sécurité sociale et l'assurance chômage, elle est là pour protéger les travailleurs et y compris pour empêcher qu'il y ait une concurrence trop importante qui soit mise les travailleurs les uns entre les autres. Hein, parce que le chômage, comme Marx il a pu le théoriser, mais aussi d'autres penseurs, hein, c'est bien cette armée industrielle de réserve qui permet deux choses principales pour le patronat, c'est de faire pression sur les salaires par chantage à l'emploi, et ça on l'a tous entendu, c'est en gros, si t'es pas content, t'as 4 cassés, de toute façon il y en a 11 millions qui attendent ta place, et puis l'autre c'est que les chômeurs, eh ben, ils acceptent n'importe quel emploi. Hein, genre, aujourd'hui on n'est pas libre de travailler. C'est soit on travaille, soit on touche une indemnisation, et Yohann va vous l'expliquer, qui en plus qui est de plus en plus faible. Donc on est bien obligé de travailler. L'assurance chômage, elle a déjà ramassé des coûts. Là, on va vous présenter les autres, mais elle en a déjà ramassé beaucoup. Si on prend la dernière convention en 2017, que la CGT n'a pas signée parce qu'elle a imposé une baisse déjà de 900 millions d'euros sur les droits des chômeurs, aujourd'hui, il y a l'urgence sociale. Il y a 50% des indemnisations chômage qui sont inférieures à 950 euros, et il y a seulement 20% des chômeurs qui sont indemnisés. Le gouvernement, au lieu de répondre à cette urgence sociale-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il va nous imposer une nouvelle baisse de 6 milliards d'euros des droits.
On connaissait la Versaillaise, un serre-tête qui pousse un long dos,
la plus en vue dans le diocèse.
Si un jour tu te plantes, ton patronat d'amour viendra voler dans le à ton secours.
Bonsoir, vous êtes toujours dans l'émission Mode d'emploi d'Agir ensemble contre le chômage et vous venez d'entendre les Goguettes en trio avec un de leurs titres de référence, pourrait-on dire. On poursuit cette émission avec le témoignage de Yannick de la Fédération CGT des intérimaires, premier concerné par les futures réformes de l'assurance chômage. Puis nous écouterons Yohann nous parler des contrôles des privés d'emploi par la mal nommée agence Pôle emploi.
Alors bonsoir tout le monde, Yannick pour la CGT intérim. Oui, ça existe. Il y a une fédération de l'intérim à la CGT. Je vois vos visages là, tous étonnés. Oui, ça existe. La CGT est contre la précarité, mais c'est pas parce qu'on est contre la précarité qu'on peut pas défendre ceux qui y sont dans la précarité. Donc la CGT intérim, c'est la seule fédé qui cherche à disparaître parce qu'on veut que tout le monde soit embauché en CDI. Dans l'intérim, on assiste de plus en plus à de grosses difficultés et la réforme de l'assurance chômage, c'en est qu'une de plus. C'est que la énième agression envers les travailleurs précaires de France. Donc aujourd'hui, plus de boulot, plus de salaire, plus de retraite, même plus d'assurance chômage. Il faut savoir que la belle époque où les intérimaires étaient volontairement intérimaires, elle est passée depuis longtemps. Aujourd'hui, l'intérim, elle est à 80% subi. La durée des contrats, et là ça rentre directement en relation avec la réforme de l'assurance chômage, la durée des contrats d'intérim aujourd'hui, c'est hallucinant. La médiane est de 13 jours. C'est des contrats de 13 jours et c'est la médiane. La moyenne, elle est beaucoup plus basse. Les contrats de mission, aujourd'hui, la règle, c'est plus des missions longues, c'est des missions très courtes. Et une mission d'une semaine, c'est-à-dire de 5 jours, c'est déjà une exception. Si je sors ma fiche de paye du mois, en fait, c'est 25 fiches de paye. J'ai des contrats à la journée. Donc, et ce n'est pas des contrats qui se suivent. Donc, le temps de réactiver des droits, je vous laisse imaginer ce que ça va donner. Aujourd'hui, avec le système actuel, énormément, mais vraiment énormément, près de 60% des intérimaires qui ont des missions courtes et peu régulières, survivent avec un complément en indemnisation chômage. Ils travaillent, ils sont payés le 12, du 12 au 15, et à la fin du mois, il y a le complément en indemnisation assurance chômage. Avec le nouveau système, c'est fini ça. Ça va être impossible à gérer. Et la plupart des intérimaires, qui étaient déjà pas bien riches, vont pouvoir être maintenant qualifiés de travailleurs pauvres. Ce qui est déjà le cas pour beaucoup, mais là, ça va être la règle. Sachant qu'aujourd'hui, l'intérim et le précaire, ça devient une habitude. C'est le mode, la précarité, c'est les conditions de travail normales. Le CDI n'est plus la norme. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Renault parce que je suis du Havre. Vous allez à Renault-Sandouville, vous voulez arrêter l'usine, vous mettez 100% des salariés Renault en grève, il y a 20 voitures qui sortent à l'heure parce qu'il n'y a plus de salariés Renault sur les chaînes de production. Une usine comme Renault-Le Havre, c'est 1700 intérimaires par jour. Il y a uniquement des intérimaires sur la chaîne avec des contrats de 5 jours, puis plus rien, puis à nouveau un contrat de 5 jours. Rien, puis un contrat de 2 jours. Et ces 1700 intérimaires de chez Renault, ils survivent. Et j'ai pas ils vivent, j'ai bien ils survivent, avec un complément Pôle emploi derrière. Et donc cette nouvelle réforme, c'est un cauchemar pour tous les travailleurs précaires. Et il y a pire. Il y a quelques années, une entreprise avait besoin d'un intérimaire, elle appelait, un intérimaire. Aujourd'hui, une entreprise a besoin d'un intérimaire. Elle appelle une entreprise sous-traitante, qui appelle elle-même une entreprise sous-traitante, et au bout de 10 sous-traitants, il y a la dernière qui appelle l'intérimaire. Donc l'intérimaire, au lieu de travailler avec l'égalité de traitement de Renault, il travaille avec l'égalité de traitement du 10e site sous-traitant qui l'a appelé. Il travaille sur la chaîne à Renault, il est intérimaire, il ne travaille pas pour Renault, il n'a pas les conditions de traitement d'un salarié Renault. C'est-à-dire que déjà, il est en dessous.
Et tous. Donc moi, Johan, je suis conseiller pour l'emploi sur l'agence d'Aubervilliers et donc je suis à CGT pour l'emploi Île-de-France. Je pense qu'on ne peut pas parler de la réforme de l'assurance chômage sans parler du décret du 30 décembre 2018 qui met en place la répression à Pôle emploi, la répression des privés d'emploi. Le décret du 30 décembre, il vise à augmenter les sanctions des privés d'emploi en cas de non-recherche d'emploi, en cas d'absence à rendez-vous, en cas d'absence à des prestations. Et il renforce les brigades de contrôle de recherche d'emploi au sein de Pôle emploi. Il faut savoir qu'en 2018, il y avait 200 contrôleurs sur l'ensemble de la France. L'idée, c'était en 3 ans de passer de 200 à 1000 contrôleurs sans embaucher en plus à Pôle emploi, hein, juste en prenant des conseillers sur le réseau. Déjà que ça fait 3 ans qu'on a subi 3000 suppressions d'emplois au niveau de Pôle emploi, ça veut juste dire en fait privilégier la répression des privés d'emploi au détriment de leur indemnisation, au détriment de leur accompagnement. Cette réforme, enfin ce décret du 30 décembre 2018 sur le renforcement des sanctions, c'est clairement en préparation à la réforme de l'assurance chômage qui vise à détruire l'accès aux droits et le montant des indemnisations pour pousser vraiment les privés d'emploi et les précaires à accepter tout type de taf et surtout à éviter comme la peste pour les Pôle emploi. On sait par ailleurs qu'aujourd'hui à Pôle emploi, ça devient une misère pour se faire accompagner. Moi, à titre d'exemple, je suis conseiller en accompagnement, j'ai 360 personnes à accompagner, ce qui est clairement impossible. Les personnes aujourd'hui à Pôle emploi, il faut savoir qu'au niveau des inscrits, je parle juste des inscrits, hein, parce qu'il y a plein de gens comme disait Pierre qui ont renoncé à s'inscrire à Pôle emploi. Aujourd'hui, parmi les inscrits, il y a 42% uniquement qui touchent une allocation de chômage. C'est-à-dire que la majorité des gens qui s'inscrivent à Pôle emploi, c'est pas pour toucher une alloc, contrairement à ce que disent les médias. C'est des gens qui sont inscrits pour trouver du taf. Donc 42% à l'heure actuelle touchent une allocation de chômage. Parmi ces 42% qui touchent une allocation de chômage, tu me diras si je me trompe, la moitié touche moins de 950 euros par mois, ce qui est déjà une misère. Et nous, on les voit, les situations de misère au quotidien dans nos agences. Là, et du coup, je termine là-dessus. Quel est l'intérêt dorénavant pour les personnes qui se retrouvent au chômage de s'inscrire à Pôle emploi? On n'a aucune allocation ou des très faibles, on ne peut pas être accompagné parce que le conseiller il est débordé, et en plus on se prend des sanctions, des contrôles aberrants. Aujourd'hui j'ai reçu un mail d'un conseiller du contrôle qui me dit qu'il vient d'ouvrir un contrôle sur une personne que j'accompagne, enfin que j'ai pas encore vu hein, parce que j'ai mon portefeuille depuis 2 mois. On me dit il va le contrôler. J'ai regardé le dossier, une personne de 56 ans qui a été marquée clairement dans les derniers entretiens par sa précédente conseillère qu'il a un état de santé qui ne lui permet pas de travailler. Cette personne-là ne touche pas d'allocation, elle est au RSA, et pourtant un contrôle est ouvert où le conseiller estime que la personne n'a pas fait de preuve de recherche d'emploi sur les 12 derniers mois, etc. Alors je ne sais pas s'il va y avoir une sanction au final, parce que moi il faut que j'intervienne à ce niveau-là, mais aujourd'hui il faut savoir qu'il y a quand même des impératifs, non pas de radiation, on n'en est pas encore là, mais au moins de contrôle. En Ile-de-France en 2019, c'est 70 000 contrôles qui étaient exigés auprès des conseillers du contrôle. Donc clairement, l'idée c'est de faire peur, de réprimer et de dire de toute façon, oubliez l'inscription à Pôle emploi, vous ne serez pas accompagné et vous n'aurez rien, et en plus on va vous taper sur la gueule. Donc clairement, le gouvernement il peut être content, les chiffres du chômage, en tout cas des inscrits à Pôle emploi baissent, il communique, il est content. Donc clairement, nous au niveau des conseils Pôle emploi, on n'a pas la main sur le méthode de calcul parce que maintenant c'est les algorithmes qui gèrent les choses, on n'a pas la main, on ne pourra pas empêcher dans notre taf l'application du décret 1er avril. Par contre, et ça c'est ce qu'on fait depuis des mois, on sera à tous vos côtés, à chaque fois qu'il y aura des actions, on sera présent, ne vous inquiétez pas, et on fera en sorte de construire des deux côtés du guichet la défense d'un vrai service public de l'emploi qui se soucie d'une indemnisation de qualité, d'un accompagnement de qualité. Merci.
Mec, c'est la merde, on est vraiment en galère de thunes.
FPP achète bientôt une nouvelle table de mixage pour remplacer la console actuelle qui devient obsolète. Retrouvez le lien de la cagnotte sur rfpp.net ou sur notre page Hello Asso.
Alors soutenez la voix des sans-voix.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et c'est l'émission Mode d'emploi. On poursuit cette émission sur la réforme des chômages avec la position commune exprimée par les syndicats, les cinq syndicats négociateurs, la CFDT, la CFE-CGC, la CFDT, la CGT et FO, qui, dans un courrier commun, rappelle qu'ils sont profondément en désaccord avec la réforme de l'assurance chômage qui sera bientôt mise en œuvre par le gouvernement. Alors que le pays fait face à une crise liée au Covid-19 qui préoccupe les travailleurs, le gouvernement s'apprête à mettre en œuvre une réforme de l'assurance chômage dont les conséquences pèseront lourd sur le quotidien des femmes et des hommes qui perdent leur emploi. Nos organisations demeurent en profond désaccord avec le principe fondateur de cette réforme selon laquelle la baisse des allocations chômage inciterait à un retour plus rapide à l'emploi. Cette réforme est d'abord l'occasion de faire d'importantes économies budgétaires aux seules dépens des demandeurs d'emploi. En ce qui concerne les mesures de la réforme envisagées par le gouvernement, les syndicats affirment notamment que les seuils d'accès à l'indemnisation doivent inclure un maximum de travailleurs et tout particulièrement les jeunes, que la détermination des règles d'indemnisation doit obéir à des principes simples et lisibles, ou encore que la dégressivité des allocations pour les plus hautes rémunérations est inefficace et doit être abandonnée. Ils estiment aussi qu'une modulation des cotisations patronales est nécessaire pour décourager les employeurs abusant des contrats précaires, c'est-à-dire un système de bonus-malus. Les syndicats ajoutent en outre que l'étude d'impact de la réforme est indispensable. Ils observent que les premiers travaux de l'UNEDIC, qui gère le régime d'assurance chômage, confirment que les conséquences seront lourdes pour les demandeurs d'emploi et largement concentrées sur les plus précaires. Rappelons que la précédente réforme impliquait une baisse de 20% en moyenne des allocations chômage. Soulignant que l'assurance chômage a prouvé son utilité, notamment lors des différentes crises économiques, sociales et sanitaires, les organisations syndicales réaffirment encore que face à la réforme gouvernementale et dans le contexte de crise actuelle, une remise à plat est nécessaire. L'assurance chômage doit être adaptée à la situation des demandeurs d'emploi pour améliorer leurs droits. Alors juste un petit commentaire sur cette réforme. Prétendre mettre fin aux contrats courts pratiqués par les employeurs en supprimant les protections qui permettent aux salariés de refuser ces types de contrats, c'est créer une main-d'œuvre malléable et corvéable à merci qui, à l'avenir, acceptera tous les types de contrats et tous les reculs sociaux. Et c'est bien le but de la réforme qui se dissimule à peine sous les objectifs purement comptables. Précariser les précaires, rendre responsables les chômeurs du chômage, refuser toute assistance aux jeunes de moins de 25 ans pendant qu'on ouvre le robinet à liquidité aux banques et que l'on gave d'argent public les grandes entreprises, c'est ce qui s'appelle la politique raisonnable et éclairée de notre nouveau parti de l'ordre, dont la seule obsession est le racolage des électeurs de l'extrême droite.
Qu'est-ce que j'ai pu faire dans la vie, mon Dieu ? Il y a des jeunes gens qui se font de la bile, des vieux qui se font du mauvais sang, parce qu'ils n'ont que 3 automobiles ou qu'ils n'en pochent que 100%. Ben moi, rien que pour gris, mais que me fait-on faire un cône ? Oh, des bêtises, rien ne me repute, mais des gouttes pour gagner ma croûte.
Eh oui. Pour gagner ma croûte, c'était d'Henri Lavergne. On était replongé dans les années 1932, pour le coup. Oh, ben non, c'était quand même sympa, hein, pour le. Donc, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, dans l'émission des chômeurs et précaires. On va reprendre cette émission avec beaucoup d'énergie, on va dire. Je plaisante.
Donc, il en faut pour les chômeurs. Pour présenter la réforme, on va écouter le collègue de la CGT chômeur qui est intervenu dans l'agenda 2 jours avant la manif et qui n'a pas souhaité se présenter donc pour se mettre en avant. Donc on l'écoute.
Très bien.
Tel quel.
Est-ce qu'on peut dire que c'est le début d'un mouvement au long cours, en quelque sorte, des chômeurs et précaires pour la suppression hein, de la réforme, notamment qui rentrera en vigueur le 1er septembre. Peut-être qu'on peut expliquer au micro ce qu'est la réforme aussi.
Oui, voilà, c'est ça. Donc là, c'est un premier rendez-vous. Donc ce premier rassemblement-là, c'est pour dire que il y a eu déjà 177 000 nouvelles inscriptions en mars en catégorie A à Pôle emploi, plus de 200 000 en avril, 61 000 encore aujourd'hui. Le nombre de chômeurs n'arrête pas comme ça de grossir. Et le gouvernement, lui, il veut maintenir sa réforme qui est faite pour punir les privés d'emploi et les précaires, pour nous forcer à accepter tous les contrats, même avec les conditions de travail les pires. Donc cette réforme-là qui était faite pour punir et qui était en deux vagues, hein, la première vague qui est déjà rentrée en application et qui a augmenté le nombre de mois nécessaires pour pouvoir ouvrir des droits, donc on est passé de 4 à 6 mois et qui a impacté 700 000 travailleurs précaires qui ne peuvent plus ouvrir de droits à l'instant T auquel ils auraient pu avant ce décret-là. Et puis la deuxième vague qui a été reportée de quelques mois et qui là va rentrer en application en septembre et qui elle va baisser l'indemnisation en moyenne de tous les chômeurs de 22% et pour les travailleurs les plus précaires, notamment ceux qui sont en extra ou les saisonniers qui seront aussi avec nous devant l'UNEDIC, eh ben eux, ça va être une baisse de leur indemnisation jusqu'à 75%. Donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que la première chose, c'est qu'il faut annuler cette réforme-là, il faut prolonger les droits de tous les chômeurs, comme ce qui a été fait pour les intermittents, il faut le généraliser à l'ensemble des travailleurs privés d'emploi, donc une prolongation d'un an des droits de tout le monde, et puis mettre vite sur la table de nouvelles négociations d'assurance chômage qui devront avoir pour but d'indemniser tous les chômeurs, parce qu'encore une fois, ceux qui licencient, c'est le patronat. Là, on voit en plus hein, que ça se succède à Air France, à Luxfer, dans l'automobile. Voilà, il y a le plan licenciement qui s'accumule. Donc il faut que l'État il dise on sauve l'emploi partout où c'est possible et on protège les travailleurs quand ils sont privés d'emploi.
Oui, pour expliquer aux auditeurs très clairement, c'est qu'en fait la réforme qui va rentrer en septembre prend en compte le temps partiel et donc expose justement, alors tous ceux, les gens qui font des extras, les intérimaires, tout ça, elle prend en compte le temps partiel dans le calcul de l'indemnité, ce qui fait mécaniquement en fait baisser l'indemnité, donc dans des proportions extrêmement importantes.
Pour les retraites, dans le calcul de l'indemnisation chômage, il y aura la prise en compte des jours non travaillés. Donc si moi par exemple j'ai commencé le 1er janvier et que j'ai terminé le 1er décembre, et que sur cette période-là, j'ai accumulé 6 mois de travail, donc 6 mois de travail sur 12 mois, mon indemnité chômage, elle va être divisée par le nombre de jours calendaires, donc c'est-à-dire par 365, or je n'aurais travaillé que la moitié. Donc automatiquement, mon indemnisation, elle va être diminuée par 2. Voilà, c'est la prise en compte des jours non travaillés dans le calcul du salaire journalier de référence.
Et la tartufferie du gouvernement va jusqu'à prétendre qu'en réalité les droits ne sont pas diminués puisqu'en fait on les allonge dans la durée.
Alors c'est qu'en fait on va avoir des droits plus pourris, plus faibles et sur une période qui sera plus longue parce que auparavant, avant le décret, j'aurais une indemnisation à 60 en moyenne, 62% de mon ancien salaire sur la période travaillée, donc c'est-à-dire 6 mois. Là, j'aurais une indemnisation sur la période de référence de calcul, donc c'est-à-dire sur les 1 an, mais avec une indemnisation qui sera 2 fois plus faible. Donc là, on voit bien que cette réforme-là, elle est faite pour punir les travailleurs précaires, et puis dans la continuité, je dirais, des réformes Macron, les ordonnances, la réforme El Khomri, pardon, les ordonnances Macron, en fait, c'est de faire accepter les travails, même ceux qui sont, par exemple, très faiblement rémunérés. Parce que si moi, mon indemnisation chômage a été calculée, était par exemple de 1 800 euros, là actuellement, je peux dire, l'offre de travail qu'on me propose est à 1 200, ça ne me convient pas au niveau du salaire, parce que par exemple j'ai des expériences, donc je n'accepte pas cette offre. Mais quand l'indemnisation chômage elle est réduite par 2, et donc on va passer de 1 200 euros à 600, et ben voilà, il faudra mettre du beurre dans les épinards, et donc le gouvernement, ce qu'il est en train de faire, c'est d'affamer les travailleurs privés d'emploi pour nous forcer à accepter n'importe quel travail. Voilà, et ça c'est inacceptable. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est protéger. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est plutôt d'y mettre en place une politique de l'emploi qui réponde quand même aux besoins sociaux. Là, on a vu la crise du coronavirus, l'hécatombe que ça a été, parce que notre service public de l'hôpital, on l'a dépecé, on a supprimé des lits, on a fermé les hôpitaux de proximité. Voilà, aujourd'hui, c'est quand même ça qu'il faut regarder. Mettre en place une politique de l'emploi, de la formation professionnelle qui répond aux besoins sociaux et pas aux desiderata et aux impératifs de profit des capitalistes, quoi.
Oui, voilà. Et donc, pour finir, hein, sur le dossier, on peut dire aussi que c'est une réforme, hein, sur le chômage qui est particulièrement à propos parce qu'évidemment, il l'a proposé avec des chiffres soi-disant à 7,5%. Mais aujourd'hui, voyez-vous, avec le million en plus depuis le début du confinement, évidemment, c'est une politique accepter n'importe quel emploi. C'est une politique qui est impossible. Faut-il qu'il y ait de l'emploi, bien entendu, parce que voilà. Donc, du coup, juste une dernière question. J'aimerais savoir où en sont les négociations, en fait, sur cette question avec le gouvernement, puisque quand même, en principe, on peut penser que les syndicats n'allaient pas rester inactifs.
Alors, il n'y a pas de négociation, hein. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de négociation sur l'assurance chômage, mais en plus, quand le gouvernement appelle les organisations syndicales à discuter, parce que le gouvernement, il ne fait que discuter, il n'y a pas de négociation, hein. Quand le gouvernement, il appelle les organisations syndicales à discuter du sujet de l'assurance chômage, en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est pour l'imbriquer avec d'autres discussions, notamment sur l'apprentissage. Et en gros, pour le gouvernement, lui, la réponse au chômage de masse, c'est l'apprentissage pour tous les travailleurs qui ont moins de 30 ans, donc c'est-à-dire le SMIC jeune, hein, c'est quand même que je rappelle que l'apprentissage, la rémunération salariale, c'est 80% du SMIC. Donc, pour le gouvernement, la réponse au chômage de masse, c'est le SMIC jeune, c'est le retour du CPE. Voilà. Donc ça, c'est inacceptable. Et on ne discute pas des droits. On ne discute pas des droits des privés d'emploi. On ne parle pas de l'indemnisation chômage. Et on ne parle pas, par exemple, de la voie professionnelle publique, c'est-à-dire du lycée pro. Le gouvernement, il met 2 milliards pour l'apprentissage. Il ne met rien ni pour les lycées professionnels, ni pour l'indemnisation des privés d'emploi. Et aujourd'hui, quand même, c'est de ça qu'il faut parler. La reconquête des services publics est la reconquête de notre système de protection sociale.
Il se peut que je vous déplaise. Je ne chante pas pour passer le temps.
La voix des sans-voix a besoin de toi.
Radio FPP lance un crowdfunding pour s'acheter une nouvelle console de mixage pour ne plus entendre ça. Et plutôt entendre ça.
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel à 106.3, c'est l'heure de l'hebdo, le magazine de la...
Il faut aller sur rfpb.net, il y a le lien vers la cagnotte,
ou sur notre page Hello Asso.
Hello Asso, soutenez la voix
des sans-voix.
Soutenez voix sans-voix là, FPP.
On passe à l'appel à la mobilisation des jeunes le 16 mars. Les jeunes mobilisés pour leur avenir, voilà le mot d'ordre d'une journée de mobilisation programmée pour le 16 mars, à l'initiative de 14 syndicats étudiants et mouvements de jeunes. Dans un communiqué diffusé mardi 23 février, ces organisations appellent les jeunes à se faire entendre. Elles réclament un filet de sécurité pour limiter la précarité à laquelle ils sont exposés de manière plus importante depuis le début de la crise sanitaire. Parmi les signataires de l'appel, les syndicats étudiants UNEF, UNL et FIDEL notamment, les branches jeunesse et plusieurs partis de gauche, comme les jeunes socialistes, les jeunes insoumis et le NPA, figurent également parmi les auteurs de l'appel à la manifestation. Nous appelons les jeunes et les étudiants à se mobiliser à nouveau partout en France et à construire des mobilisations locales par région, écrivent les différentes organisations qui rappellent que l'objectif est de se faire entendre. Les jeunes et les étudiants sont parmi les plus impactés par la crise sanitaire, affirment les signataires de l'appel, qui estiment qu'il n'existe toujours aucun filet de sécurité, aucune protection sociale à la hauteur. Les crises sanitaires et économiques ont amplifié la précarité des jeunes, rappellent ces organisations. Elles demandent un plan d'urgence d'1,5 milliard d'euros pour lutter contre cette précarité et souhaitent que cela passe notamment par une augmentation des bourses et des APL. L'ouverture du RSA aux jeunes de moins de 25 ans en insertion et la suppression des contrats précaires pour aller vers le CDI. Des appels à la mobilisation ont déjà été lancés dans le milieu étudiant et de la jeunesse les 20 et 26 janvier ainsi que le 4 février. Pendant la crise du Covid, l'école continue, mais aujourd'hui, 30 000 apprentis n'ont pas encore trouvé d'entreprise pour les accueillir depuis la rentrée de septembre. L'apprentissage est en plein boom, mais la demande est supérieure à l'offre. Au 15 février, près de 30 000 jeunes n'ont pas encore trouvé de solution d'entreprise et le délai de 6 mois imposé par les centres de formation arrive bientôt à expiration. L'apprentissage a atteint un niveau record en 2020, frôlant la barre des 500 000 contrats signés. Mais revers de la médaille, la demande est désormais supérieure à l'offre.
près de 30 000 jeunes, au 15 février dernier, n'ont toujours pas trouvé d'entreprise pour les accueillir. Ils se sont inscrits à la rentrée de septembre pour une formation en alternance dans une école ou un CFA et avaient 6 mois maximum pour trouver un contrat. Le délai expirera bientôt. Les acteurs de l'apprentissage s'inquiètent de cette situation. Au moment où nous vivons une révolution sur l'apprentissage, je nous vois mal, de manière irresponsable, laisser sur le bas-côté 30 000 jeunes qui n'auraient pas trouvé de solution, confie Yves Inéquin, président de WALT, une association qui regroupe les Compagnons du Devoir, les maisons familiales rurales et plusieurs écoles de formation en alternance. Conséquence de la crise, le surendettement des ménages et les expulsions locatives devraient exploser. Auditionnée dans le cadre de la mission d'information sur la lutte contre la précarité, la déléguée interministérielle à la lutte contre la pauvreté s'est inquiétée quant au surendettement et aux expulsions locatives qui devraient exploser après la trêve hivernale. Auditionnée dans le cadre de la mission d'information sur la lutte contre la pauvreté, Marine Jantet a fait état des sujets sur lesquels ses services gardent un œil inquiet. Les 10% les plus pauvres se sont endettés, là où les 20% les plus riches ont épargné pendant cette période. Paradoxalement, les dépôts de dossiers de surendettement ont baissé de 24% en 2020, mais cela s'explique davantage à cause du confinement. Lorsque les aides aux entreprises prendront fin, la situation pourrait déraper. Les personnes confrontées au surendettement font également face à la question des frais bancaires, une difficulté à laquelle Marine Jantet se dit très attentive, notamment avec le souci que les aides exceptionnelles du gouvernement ne servent à payer uniquement les frais bancaires. Autre bombe à retardement, la question des impayés de loyers et des risques d'expulsion locative. Bien qu'on ne soit pas dans une explosion des impayés de loyers, on sait déjà que cela va bientôt arriver. Les expulsions locatives ont été gelées, mais il y a un stock non négligeable de 30 000 personnes à l'horizon de la fin de la trêve hivernale, là où en 2019, il y avait 17 000 expulsions locatives, expose la déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Les aides pour les locataires sont souvent inconnues ou trop restrictives au niveau des critères d'attribution qui varient d'un département à l'autre. C'est le principal reproche qui est fait au Fonds de solidarité pour le logement, FSL. Plus globalement, la question de l'accès aux droits a largement été évoquée. 20% des gens qui pourraient aller vers le RSA n'y vont pas, rappelle Marine Jantet en soulignant le rôle que devront jouer les maisons France Service. Les maisons France Service sont en train de se développer et surtout, on a fait beaucoup de démarches pour les jeunes dans le cadre de l'obligation de formation. Il faut aller les chercher. Et on envisage de faire des maraudes numériques, dit-elle. La dématérialisation des guichets dans les services publics a éloigné les publics les plus précaires, ceux qui souffrent de la fracture numérique. Face à la crise, qui touche aussi durement les jeunes, le sujet du revenu universel a été remis sur la table. Dans ce quinquennat-là, dit-elle, on n'aura pas le temps de passer une loi. Mais, en revanche, un rapport technique sera rendu à l'automne. Le but est au moins de capitaliser sur tous les travaux qui ont été faits. En pleine crise du trafic aérien, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac se débarrasse de 55 salariés. 2020 est une année noire pour l'aéroport de Bordeaux-Mérignac qui enregistre un retrait de plus de 70% du flux de voyageurs. Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la société aéroportuaire sont parvenus à la signature de 3 accords co-construits et adaptés à l'ampleur de la crise afin de préserver un maximum d'emplois. L'accord sur l'activité partielle de longue durée prévoit une réduction de la durée du travail de 40% pour l'ensemble des personnels, jusqu'à 50% à titre dérogatoire, avec un dispositif de chômage partiel abondé par la société aéroportuaire afin de garantir le maintien du niveau de rémunération nette de base. Conclu jusqu'au 28 février 2022, il rentre en vigueur pour une période initiale de 6 mois. Basé sur le volontariat, l'accord sur une procédure de rupture conventionnelle collective qui court jusqu'au 31 décembre 2021, organise les modalités de départ de 55 personnels candidats et éligibles au dispositif pour un solde net de 13% d'employés non remplacés. Il est assorti d'une indemnisation bonifiée à partir de la grille de rémunération de la Convention nationale des transports aériens et des personnels au sol et d'un accompagnement facultatif par un cabinet spécialisé. Les personnels concernés dans leur projet de reconversion, la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac emploie actuellement 210 personnes. Enfin, l'accord de performance collective précise les modalités adaptées de gestion du temps de travail avec la pause obligatoire de 3 à 5 jours de congés payés sur des jours fériés, chômés, rendus travaillés et proratisés, comme les RTT, à la réalité du temps de travail. Cet accord instaure un gel exceptionnel des congés d'ancienneté pour l'année 2021. En fin d'année dernière, la poursuite de l'effort de maîtrise des charges a conduit le conseil de surveillance de la société aéroportuaire à l'adoption d'un plan de résilience et de reprise, avec un gel de l'ordre de 110 millions d'euros de son plan d'investissement à l'horizon 2023. En 2020, la plateforme a comptabilisé 56 jours sans aucune exploitation de vols commerciaux de passagers. Fin 2019, l'activité de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac s'achevait sur un bilan annuel record de 7,7 millions de passagers, dont 60% sur des vols internationaux. La croissance avait atteint plus 13% et un programme d'investissement de 169 millions d'euros avait été voté pour soutenir le nouveau plan d'orientation stratégique jusqu'en 2023. Une croissance brutalement stoppée par la crise sanitaire et la pandémie mondiale de Covid-19. En 2020, l'aéroport de Bordeaux a comptabilisé 2,3 millions de passagers, soit une baisse de trafic de 70% par rapport à 2019. Un niveau de trafic qui ramène la société aéroportuaire plus de 10 ans en arrière, que le terminal low-cost Billy n'était pas en service. En 2020, la plateforme a comptabilisé 56 jours sans aucune exploitation de vols commerciaux de passagers.
Cette émission se termine. Je vous remercie messieurs, dames, de l'avoir suivi. Merci à Ludo de l'avoir faite avec moi et Claude aussi à la technique. Je fais un gros bisou aux filles, une poignée de main aux garçons. Et surtout, restez pour manifester, faire des occupations, continuer à lutter. Voilà, il faut absolument renverser ce gouvernement qui nous ment. Voilà, au revoir.
Bonne journée, bonnes vacances.